Il avertit le chef de l'équipe scientifique, qui analysa les données et estima qu'il devait s'agir d'une comète à périodicité lente. Ce fut seulement 2 mois plus tard qu'une simple stagiaire démontra que ce signal provenait d'un objet cylindrique de plus de 40 km de longueur. En 2197, tous savaient qu'un deuxième vaisseau extraterrestre se dirigeait vers le système solaire. L'Agence spatiale internationale, l'ASI, consacra tous ses moyens à la préparation d'une mission qui intercepterait l'intrus à l'intérieur de l'orbite de Vénus fin février 2200. L'humanité levait une fois de plus les yeux vers les étoiles et débattait des questions philosophiques soulevées par le passage du premier amas. Alors que le nouveau visiteur poursuivait son approche et que ses caractéristiques étaient définies avec plus de précision par les batteries de détecteurs braquées vers lui, il s'avéra que ce vaisseau extraterrestre était extérieurement identique à son prédécesseur. Rama revenait. L'humanité avait un second rendez-vous avec sa destinée. Simulation. L'étrange créature métallique progressait lentement le long de la falaise en direction d'une corniche en surplomb. Elle évoquait vaguement un tatou squelettique avec son corps articulé surmonté par la coquille de protection des gadgets électroniques installés à califourchon sur son segment central. Un long bras flexible sorti du nez de l'hélicoptère, qui restait en vol stationnaire à environ 2 mètres de la paroi verticale, et ses pinces manquèrent de peu se refermer sur le robot. « Bon sang !» grommela Janos Tabori. « Je n'y arriverai jamais tant que cet engin ne sera pas stabilisé. Même dans des conditions idéales, il est presque impossible d'avoir des gestes précis quand le bras est en extension maximale. » Il regarda le pilote. « Pourriez-vous m'expliquer pourquoi ce dernier cri de la technologie ne peut conserver une altitude et une assiette constantes ?»« Rapprochez-vous de la paroi, » ordonna le docteur David Brown. Hiro Yamanaka lui lança un regard, puis utilisa le clavier pour fournir une instruction à l'ordinateur du bord. Le message « Ordre inacceptable, marge de sécurité insuffisante » se mit à clignoter en rouge sur l'écran de la console. L'homme s'abstint de tout commentaire et leur engin continua de faire du surplace. « Il reste 50 cm entre les pales et la paroi. » « Peut-être 75 », pensa Brown à voix haute. « Dans 2 ou 3 minutes, le biote se sera réfugié sous le surplomb. Il faut passer en manuel et s'en emparer immédiatement. Cette fois, vous n'aurez pas le droit à l'erreur, Tabori. » Hiro Yamanaka dévisagea le scientifique au crâne dégarni, puis fit abstraction de ses doutes et entra une nouvelle instruction avant de basculer un gros levier noir vers la gauche. Les mots « mode manuel, aucune protection automatique » clignotèrent sur le moniteur. Avec prudence, Yamanaka rapprocha leur engin de la falaise. Tabori était prêt. L'ingénieur glissa ses mains dans les gants de commande du bras articulé et s'entraîna à ouvrir et refermer ses griffes. Le membre de métal s'étira à nouveau et ses serres mécaniques se refermèrent sur le segment central de l'escargot. Des palpeurs retransmirent à l'intérieur des gants une sensation de contact. « Je le tiens !» s'exclama Tabori. Il entreprit de ramener la créature artificielle vers l'hélicoptère. Une brusque rafale de vent déséquilibra leur appareil qui s'inclina vers la gauche. Le bras et le biote heurtèrent la paroi. Tabori sentit sa prise lui échapper.
« Redressez !»
cria-t-il en continuant de rétracter le bras. Yamanaka essaya de compenser le mouvement de roulis et l'engin piqua du nez. Ses 3 passagers entendirent la roche rogner l'extrémité des pales. Le pilote japonais pressa un bouton rouge et l'hélicoptère passa en mode automatique. Moins 1 seconde plus tard, une sirène gémissait et un message clignotait sur le moniteur. « Dommage important, forte probabilité d'accident. » Éjection.